destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
On est à la chapelle du Fraisse avec Hélène Chalier, ancienne documentaliste à la retraite.
Oui, elle est toujours présidente de l'association de restauration de la chapelle, puisque sur cette chapelle dont on s'occupe depuis une bonne trentaine d'années, nous avons fait plusieurs chantiers de restauration et nous envisageons bientôt un nouveau chantier dont je vous parlerai après.
On y est.
On y est. Alors regarde, de quelque côté qu'on arrive, mais en principe on arrive par ici, qui est d'ailleurs la descente de l'ancien chemin qui venait tout droit le long de cette murette. De quelque côté qu'on arrive, de toute façon, c'est un endroit magique. C'est très romantique. C'est une ruine entourée de végétation. Et on va s'approcher. Tu verras qu'on domine la vallée du Ramel, qu'on voit jusqu'au Lessuc dit Saint-Jean, qu'on voit les hauteurs de Beaux, celle de Saint-Maurice-de-Lignon. C'est un emplacement extraordinaire. Alors ici, on arrive, on a un petit enclos qui délimite le cimetière, qui a été utilisé jusqu'à environ 1820 par les gens des hameaux environnants, surtout le Fraisseau, le Fraisse-Bas qui était habité, des gens qui venaient de la colline d'en face, tu vois, qui est Saint-Maurice-de-Lignon, des gens qui venaient du plateau d'Esclune, là-bas, et puis de Courinque, qui est un gros village à côté du Fraisse. Entrons sur ce... Et on se trouve devant une façade avec un chapiteau à trois petites coupoles, typiquement roman, très élégante. C'est tout à fait rare, les chapelles. D'ailleurs, ce n'est pas une chapelle, c'est une église. Dans tous les textes anciens, de nos jours, on dit la chapelle, mais dans tous les textes anciens, c'est l'église. Et c'est assez rare, trois chapiteaux comme ça à cette époque-là.
Alors, ce qui me surprend, c'est qu'on est donc face à la façade donc, de la chapelle, de l'église, et on a un porche en arc en ogive, qui est plus donc gothique.
Non, c'est une ogive romane.
C'est une ogive romane, oui, voilà. D'accord.
Regarde, il y a une clé de voûte.
Eh oui.
Donc, c'est une ogive romane. Et on voit qu'ils avaient un souci d'élégance, les gens qui ont construit cette église. Cette ogive ouvre donc devant une femme qui est grande. On entre dans une église qui est grande, qui fait 18 mètres de long. Tu vois, je n'exagérais pas lorsque je disais c'est mieux qu'une chapelle, plus grand. Avec donc une porte latérale qui accédait à la cour du bâtiment principal. Et puis deux jolies fenêtres en ogive. Au sol, le dallage a été refait, ça a été notre premier chantier. Parce que bien sûr, une ruine complètement isolée de la végétation, il n'y avait même plus de chemin pour y accéder, elle attirait forcément dans les années 50 et les années 60 des chercheurs de trésors. Donc le dallage avait été entièrement retourné. Il y avait peut-être des ossements, je ne sais pas, mais le rocher à fleurs dessous, donc il n'y avait ni trésor, ni rien du tout. Le dallage avait été retourné et le cimetière avait été également gratté. Une pierre tombale, dont tout le monde avait la mémoire, qui est la pierre dite de San Michele, avait été brisée. Et cette pierre était pourtant très très importante dans la mémoire des gens, puisqu'elle était la pierre miraculeuse qui permettait aux petits-enfants qui tardaient à marcher, lorsqu'on les étendait sur cette pierre, qui leur permettait donc de reprendre de la vigueur et de marcher. Et nous avons ici, on a mis un petit tableau explicatif, nous avons un plan du XVIIe siècle qui présente... Donc, il va dater de 1610-1620 et qui présente donc le bâtiment à l'époque. L'ancien corps de logis, qui est bien dessiné encore là. Les deux tours. Alors, ici, on lit château, et puis église, et puis courtillage qui signifie jardin. On voit qu'il y a une porte, que c'est fermé de mur, et qu'il y a une porte monumentale. Et le chemin du Fraisse, bas au Fraisseau, passe ici. Et là, on a le ravin qui protège ce côté.
Ok. Et les hospitaliers ?
Alors, les hospitaliers de Jérusalem, c'est un ordre qui est un ordre soignant. Hein, ils sont hospitaliers. Et en même temps, un ordre guerrier. Ils étaient obligés de se militariser sur le modèle des Templiers. Ce sont eux qui, lorsque les Templiers ont été éjectés, ce sont eux qui sont restés le plus longtemps en Palestine. Ensuite, ils ont été à Rhodes, ils ont été à Malte. On les connaît maintenant sous le nom de l'Ordre de Malte. Donc, ce sont eux qui ont investi le site, qui ont construit ce château, cette église. C'était des nobles, hein, des chevaliers, donc ils ont construit dans un lieu, regarde. C'est ce que je te montrais tout à l'heure. Il y a un précipice de toutes parts. Il y a des murs ici. Ils ont construit comme s'ils allaient être attaqués. C'est ce qu'ils... Ils avaient un modèle de château. C'est l'habitat traditionnel des nobles du XIIe siècle. C'est ce qu'ils construisaient aussi en Syrie. Hein, le krak des chevaliers, c'est eux. C'est ce qu'ils construisaient un peu partout. Et donc, ils avaient un plan qui correspondait à leurs besoins, à leur standing, on dirait.
Destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Un des beaux sites naturels de la Haute-Loire à visiter, la Pinatelle du Zouave, présentée par Jacques Grimaud.
Alors, la forêt dite de la Pinatelle du Zouave, c'est une forêt qui se situe à proximité du Puy-en-Velay, à la sortie d'Espalie, quand on prend la direction de Chasse-Puzac, de l'aérodrome de Loutre, si vous préférez. C'est une forêt de pin sylvestre, qui est l'essence de pin local, et c'est une forêt assez particulière, qui présente une originalité, et qui a justifié, il y a une vingtaine d'années, l'acquisition par le département de la Haute-Loire de ce site pour l'ouvrir au public. Donc c'est un site de 30 hectares, très facile d'accès, aménagé d'un parking et puis d'un petit local avec un bloc sanitaire, avec les toilettes. Et de là, du parking, vous pouvez monter sur un petit plateau avec une marche très, très, très courte et vous arrivez dans un décor assez original qui est constitué de pins tordus, de pins sylvestres qui ont un port tout à fait particulier. Le jeu, la devinette ici, c'est quand on arrive dans ce lieu, c'est de savoir mais pourquoi ces pins sont-ils tous tordus ? Qu'est-ce qui explique cette originalité-là ? Alors, en fait, cette originalité, on la retrouve vraiment dans le bassin du Puy-en-Velay, dans le Velay d'une façon un peu plus générale, mais on ne la retrouve pas partout en France. C'est vraiment une originalité propre à notre bassin. Et le jeu, c'est de trouver la raison. L'originalité de ces pins tordus trouve une explication assez logique. En fait, le principe qui a été inventé par nos aïeux consistait à couper la tête de ces pins de façon à ce qu'ils prennent une direction horizontale plutôt que verticale. Tout ça pour que on puisse récolter des branches et donc faire des fagots de façon plutôt aisée, sans avoir à monter dans l'arbre pour le récolter, entre guillemets. Du coup, c'était une technique qui permettait de récolter du bois de façon répétée, régulière, avec facilité et sans avoir besoin de couper l'arbre, en conservant l'arbre. Et voilà, donc c'était une sorte de récolte qui était faite souvent en période où il y avait peu de travaux dans les champs, qui permettait donc aux propriétaires ou aux fermiers d'avoir un petit complément de revenu en vendant des fagots aux boulangers du coin ou aux fours à chaud, aux tuileries, etc. À une époque où on n'avait pas d'énergie électrique ni la généralisation des énergies fossiles. Du coup, on utilisait le bois pour se nourrir, pour faire du pain. Et tout ça, c'est une pratique qu'on pense trouver ses origines au début du 19e siècle, peut-être même un peu avant. Et on sait qu'elle s'est arrêtée avec l'arrivée, la généralisation des fours électriques ou d'énergie fossile, c'est-à-dire entre deux guerres ou jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, cette pratique n'a pas perduré, mais il reste des vestiges qui sont clairement visibles en visitant cette forêt. Voilà, la forêt du Zouave, c'est aussi un lieu de détente, un lieu de loisirs. Le département l'a aménagé de façon assez légère, de façon à ce que le site garde un aspect tout à fait naturel. On y trouve malgré tout des tables bancs pour pique-niquer. On y trouve une aire qui est réservée à la construction de cabanes pour les enfants ou pour les grands. On y trouve aussi également depuis peu un parcours de disque golf qui est un jeu qui consiste à lancer une sorte de frisbee dans une corbeille répartie sur 9 parcours, 9 trous, donc 9 corbeilles qui sont réparties sur les 30 hectares du site et qui vous invite du coup à cheminer, à visiter le site avec une activité ludique. Voilà, c'est un site aussi qui est animé par des sorties nature ou des activités ludiques pour les enfants. en particulier cette année, on peut retenir la date du 12 août où on invite les familles à venir construire des cabanes dans le site.
À retenir pour la Pinatelle du Zouave, entre Hispalie-Saint-Marcel et Loudes, on peut venir y pratiquer un nouveau sport, le disque golf, tout en découvrant la Pinatelle, et une invitation particulière le 12 août pour une activité de construction de cabane à la Pinatelle du Zouave.
Destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Après la chapelle du Fraisse près d'Issingeaux et la Pinatelle du Zouave près du Puy-en-Velay, on prend maintenant la direction des contreforts du Mégal et plus particulièrement la direction d'une zone située entre Le Pertuis et Saint-Eustien où des centaines d'hectares d'espaces naturels sont menacés par la construction de 10 km de route en 2x2 voies. Partons donc à la découverte de cet espace avec les opposants au projet et tout d'abord, on leur a demandé pourquoi ce lieu est si particulier.
Ici, c'est une zone qui concentre énormément de volcans. Donc, au niveau mondial, il n'y a pas mieux. Enfin, dans le Puy-de-Dôme, il y a un alignement, il y a la chaîne des Puys qui a été classée au niveau de l'UNESCO. Mais ici, ce n'est pas classé. Et donc, là, le président de la région va faire une route 2x2 voies dans une zone extraordinaire au niveau paysager, au niveau botanique, au niveau faunistique, au niveau floristique. Voilà. Donc c'est une catastrophe.
On se tourne également vers Renaud Domas, président de France Nature Environnement en Haute-Loire. Alors, qu'est-ce que ce projet met en péril ?
Ici, déjà, il y a donc 20 hectares de prairies humides, de zones humides, donc 10 hectares à fort intérêt patrimonial. Il y a des captages de sources, il y a un joli réseau bocager quand même. Il y a des haies, il y a du petit patrimoine vernaculaire, que ce soit les murets, les chibottes, d'autres lavoirs, des choses comme ça.
Les noisettes sauvages. Vous parlez des noisettes sauvages de Jules Romain.
Et aussi, il y a plus d'une centaine d'espèces animales à enjeu patrimonial, des espèces menacées. On peut parler du lion royal, de la loupe d'Europe, certains amphibiens, certains insectes qui sont présents ici, qui sont des espèces menacées à l'échelle nationale ou régionale. Et où forcément, c'est des choses qui sont très difficiles à compenser. On ne peut pas recréer des habitats naturels n'importe où, n'importe comment.
Et je crois que ce qui vous agace, c'est le prix. Parce qu'on est dans une zone, comme on le disait, très volcanique, et donc ça multiplie le prix, le tarif de ces travaux. C'est des pharaoniques comme travaux.
Au niveau sociétal, on pense qu'avec l'argent qui est engagé, qui sur cette portion-là représente 224 millions d'euros, on sait qu'on pourrait presque construire 4 lycées, un hôpital et demi, on pourrait faire nombre d'allers-retours Saint-Étienne-le-Puy, entre autres, directement, on pourrait avoir des zones de croisement qui s'installeraient, et puis sur l'impact environnemental, on est sur des impacts vraiment énormes.
De la même manière que les canons à neige dans les stations de ski, on est un petit peu dans le même état d'esprit.
Tout à fait, on est sur des aberrations environnementales où après on est obligé d'amener de l'eau par camion-citerne dans les villages qui manquent d'eau.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bel espace naturel entre Le Pertuis et Saint-Eustien. Le mot de la fin à vous, Renaud Domas.
C'est aujourd'hui détruire 150 hectares de terres agricoles, d'espaces naturels. Continuer à détruire la biodiversité, continuer à avoir un impact négatif sur la ressource en eau, continuer un impact négatif sur le climat, on va augmenter les gaz à effet de serre, on va augmenter les pollutions de l'air directement ici localement, on va augmenter le bruit. tout ça, pour nous, c'est un projet du passé. On est maintenant au 21e siècle, on connaît les grands enjeux, on sait qu'il faut changer de paradigme, on sait qu'il faut changer de vision des choses. Aujourd'hui, on a besoin de manger, de boire, d'être en bonne santé. Et ça, c'est un projet qui va à l'encontre de tous ces problèmes-là.
Ben merci, je crois qu'on a fait le tour de la question. Bonne continuation.
Destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.